Donc bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc Fabien Brugière qui est là et moi donc sommes heureux de vous accueillir à cette journée d'études consacrée au travail ouvrier hors des usines. Et c'est une journée d'études qui s'inscrit dans le cadre du séminaire public du GTM Crespa. Alors en quelque seulement, parce qu'on ne veut surtout pas empiéter sur le temps dévolu aux intervenantes et aux intervenants, et ils sont nombreux, puisque vous avez vu que nous avons 8 communications et 2 discussions. Donc nous voudrions retracer la genèse de cette journée et dévoiler un peu les objectifs que nous nous étions fixés en l'organisant. Alors évidemment, le premier de ces objectifs est de redonner une place à l'analyse sociologique de ce groupe social qui constitue encore aujourd'hui une composante très substantielle de la population active, un peu plus de 20%. Donc si les ouvriers et les ouvrières n'ont pas disparu, donc en tout cas, ils sont largement sortis des radars de l'analyse sociologique des groupes professionnels. Mais en même temps, affirmer cela n'est sans doute que partiellement exact, parce que depuis quelques années, nombre de nos collègues, et certains sont ici parmi nous, je pense à Yasmine Ciblot, Marie Cartier, Paul Bouffartigue et d'autres encore, donc nombre de nos collègues produisent des recherches consacrées aux classes populaires et aux petits moyens, consacrées également à l'étude des groupes sociaux subalternes, dont l'activité se situe à la frontière entre l'industrie et le tertiaire, entre l'emploi et le chômage, entre l'indépendance et le salariat. On pense ici à certains travaux sur les zones grises du salariat, par exemple. Alors d'emblée, la simple énonciation de ces thématiques de recherche montre bien, selon nous, la difficulté que pose l'étude de ces groupes sociaux qui, sous de multiples aspects, se situent dans un entre-deux, entre deux secteurs, entre deux statuts, entre deux positions. Cela amène de fait une analyse complexe qui ne limiterait pas le regard, bien évidemment, à l'antagonisme capital-travail ou encore à l'opposition entre travail sous contrainte et autonomie. Alors, comment qualifier, en effet, ces auto-entrepreneurs au discours de parfaits petits capitalistes et qui pourtant peinent à se dégager un SMIC ou qui ne louent leur travail qu'à un seul client ? Comment rendre compte du rapport au travail de ces opérateurs qui travaillent désormais sous l'injonction de satisfaire le client en assurant une certaine qualité de service ? Comment nous doit-on nommer toutes ces femmes, ces hommes, agents de nettoyage qui s'activent en fin de journée dans les bureaux ou les entrepôts vidés de leurs salariés, des ouvrières ou, parce qu'elles sont des femmes œuvrant majoritairement dans des entreprises de service, des employés ? Notre réflexion aujourd'hui, en réalité, s'inscrit dans la continuité des travaux que nous venons d'évoquer et dont l'angle d'analyse est celui d'une sociologie des classes populaires. Nous souhaitons néanmoins orienter davantage l'analyse vers une perspective qui nous paraît largement complémentaire, qui est celle du travail ouvrier. Alors, par ce pas de côté, qu'est-ce qu'on entend ? Eh bien, en réalité, nous voulons consacrer l'analyse à cette activité d'exécution dans le domaine de la production et de biens et de services qui se caractérise par son caractère physique et répétitif, par la dépendance économique, le contrôle hiérarchique, l'autonomie restreinte et la reconnaissance limitée. Plus exactement, nous allons nous intéresser au travail ouvrier qui se déroule hors de son cadre d'études privilégié, à savoir les usines. Alors, grâce aux 8 communications qui seront présentées aujourd'hui, nous verrons des univers de travail différents. Nous irons à la rencontre de travailleurs et de travailleuses qui s'écartent de ce qu'Elena Hirata nommait la figure de l'ouvrier masculin blanc qualifié de la grande industrie et qui a longtemps été le sujet principal des études sociologiques sur les ouvriers. Et alors, ce choix de situer résolument nos analyses hors de l'usine se justifie d'autant plus aujourd'hui, à l'heure où l'importance démographique et donc la représentativité de cette catégorie spécifique d'ouvriers est affaiblie sur le territoire hexagonal, comme dans la plupart des pays développés, par les phénomènes de désindustrialisation, de délocalisation et de sous-traitance. Mais l'actualité de cette évolution démocratique ne justifie pas à elle seule la pertinence d'une étude du travail travail ouvrier hors des usines, parce que, rappelons-le quand même, ce dernier a toujours existé dans un certain nombre de secteurs. En fait, il y a selon nous un intérêt intrinsèque à lever le voile sur ce travail ouvrier moins visible ou immédiatement reconnaissable. Ainsi, la gare, l'écluse, le port, la route, l'aéroport sont autant d'espaces dévolus au travail ouvrier et qui ne ressemblent en rien aux immenses ateliers de la production textile ou automobile. De même, le travail de maintenance à domicile, on pense à la plomberie, au chauffagisme, et tout autant la conduite d'engins de transport, le camion, le taxi, l'autocar par exemple, toutes ces activités sont effectuées en solitaire, je mettrai des guillemets, contrairement à ces concentrations de personnes, de machines et d'objets que l'on a tant et si bien souvent décrits, soit pour en dénoncer la brutalité et les pénibilités, ou au contraire pour en souligner la poésie. Et je fais référence ici au reportage « C'est quoi ce travail ?» de Sébastien Jousse et Luc Joulet en 2015, qui montre le musicien Nicolas Frise, pour ceux qui ont vu le film, en train d'enregistrer les sons d'usine pour en faire une symphonie. Donc, on passe à toi.
Ok. Toujours dans l'objectif d'explorer des espaces du travail ouvrier moins attendus que l'usine, on pourrait évoquer ce travail ouvrier également dans le cadre du service de l'État et de ses missions de service public, comme dans l'éducation nationale ou les hôpitaux publics. Sans doute faudrait-il relever encore le renouvellement des modes d'organisation du travail ouvrier sous l'influence du processus de tertiarisation de l'économie, qui est en cours depuis plusieurs décennies, comme l'illustre le développement médiatisé des plateformes numériques offrant des services entre guillemets de transport de type Uber et autres services de VTC, de livraison et, que l'on voit de plus en plus dans les rues de Paris, donc des entreprises comme Deliveroo ou Uber également qui profitent de ces chauffeurs pour livrer de la nourriture avec Uber Eats, ou encore de bricolage à travers les plateformes de jobbing, c'est-à-dire des plateformes de services à la personne telles que en France Frisbees ou Stouty, qui ont suivi le modèle de l'américain TaskRabbit. On pourrait également questionner le domaine de la logistique, dont l'essor considérable actuellement tient également pour beaucoup au développement de l'économie numérique. En définitive, nous souhaitons au cours de cette journée d'études soulever une série de questions au demeurant assez classiques en sociologie du travail pour tenter de mieux comprendre et de rendre plus visible le travail ouvrier hors de l'usine. Donc premièrement, quelles en sont les conditions de travail particulières ? On peut penser à des caractéristiques comme l'isolement, la mobilité, l'invisibilité, toujours avec des points d'interrogation, bien sûr. Quelles conditions d'emploi, quel statut, comment se construisent les identités professionnelles de ces groupes professionnels dont on sait que parfois ils ne se perçoivent pas ni ne sont d'emblée perçus comme des ouvriers. On pense ici aux ouvriers de maintenance de la RATP, étudiés par Martin Thibault. On pourra peut-être penser aussi à d'autres présentations ça concerne plusieurs des présentations aujourd'hui. Comment s'organisent les collectifs de travail de ces travailleurs et travailleuses qui ne font que se croiser sur le lieu de travail ? Quid de l'identification à une éventuelle classe ouvrière, à des luttes sociales les concernant ? Même s'il est encore trop tôt pour le dire, on pourrait se demander où se trouvaient les groupes sociaux qui nous intéressent aujourd'hui lors des manifestations, des grèves et des occupations de places publiques ou de sites de production qui se sont déroulées tout au long du printemps dernier lors du mouvement contre la loi El Khomri, dite loi travail. Si des observateurs des manifestations, en particulier celle du 14 juin 2016, n'ont pas manqué de constater la présence considérable de cols bleus, défilant d'ailleurs en bleu de travail, casque sur la tête et vêtements de sécurité, de quel type d'ouvriers s'agissait-il ? Quid de leur division sociale interne du fait des rapports sociaux de classe, de genre et d'ethnicité ? Nos différents intervenants ne manqueront pas de nous apporter des réponses éclairantes à toutes ces questions et nous les en remercions par avance. Ainsi, nous écouterons en tout premier lieu Prisca Kergoat, dont le titre de la communication est de l'acquisition d'un métier à l'accès à l'emploi, formation et socialisation des jeunesses populaires au travail ouvrier. Puis nous entendrons David Gabrorio qui planchera sur le thème l'entrepôt, un autre monde ouvrier au croisement de l'industrie et des services. Yasmine Ciblot nous parlera d'engagement syndical et de sociabilité parmi les ouvrières d'une blanchisserie hospitalière. Et enfin, pour clore la matinée, François Ressa fera une communication dont l'objet sera de l'ouvrier à l'argent de service, identification et désidentification chez les nettoyeurs et les nettoyeuses de la région parisienne. Marie Cartier nous apportera son éclairage et introduira la discussion sur ces quatre communications. Cet après-midi, nous entendrons Reinhard Gressel, qui présentera une communication intitulée « Faire passer des bateaux avec des manivelles ou des souris, les éclusiers, un métier ancien en plein changement ». Constance Perrin-Joly nous parlera donc du transport routier avec une communication intitulée « Espace de reconnaissance et identité en recomposition chez les ouvriers du transport routier ». Michel Pigenet fera sa communication sur les dockers, le titre étant « Intermittence, logique de site et conscience ouvrière au fondement de la résistance des dockers à la subordination salariale au XXe siècle ». Et je clorerai entre guillemets la journée par ma présentation qui s'intitule « À l'ombre des avions, les ouvriers invisibles de l'assistance aéroportuaire ». Paul Bouffartig proposera à son tour sa lecture croisée, toujours stimulante, de ses différents travaux. Donc je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur la présentation de Prisca.
Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Je remercie beaucoup les organisateurs, organisatrices de cette journée d'études pour me permettre de présenter mes travaux. Alors cette communication se propose d'étudier le travail ouvrier en privilégiant une entrée, celle de la préparation de la main-d'œuvre au travail. Plus précisément, il s'agit de questionner les contenus de formation et les procès de socialisation en privilégiant deux scènes que sont l'école et le travail. Alors, pour ce faire, je me propose deux choses. Tout d'abord, parce que la formation professionnelle initiale est au croisement de l'éducation et du travail, il s'agit de prendre la mesure des relations d'interdépendance entre la sphère éducative et la sphère productive. Ensuite, il s'agit d'avancer une analyse qui s'efforce de penser les rapports sociaux, de classe, de sexe, voire de race, démarche indispensable dans la mesure où les espaces de formation sont tout aussi ségrégés que hiérarchisés. Alors, à cet effet, cette communication va s'appuyer sur deux recherches. La première porte sur les politiques d'apprentissage menées par de grandes entreprises françaises et ses effets en matière de socialisation. Et la seconde sur les conditions de formation d'élèves de lycée professionnel. Alors, dans le cadre de cette communication, j'ai retenu quatre formations. Les trois premières, le BEP électrotechnique, le bac pro service et le CAP TAD, TAD c'est tri, acheminement, distribution, sont préparés par apprentissage par deux grandes entreprises publiques, la première appartenant au secteur de l'énergie et la seconde au secteur des communications. Alors je préciserai juste que le CAP tri, acheminement, distribution est un CAP qui a été pensé par et pour l'entreprise, puisque l'ensemble des points indispensables à l'acquisition du diplôme sont délivrés par l'entreprise. Et la quatrième formation que j'ai privilégiée ici est préparée cette fois-ci par des élèves de lycée professionnel, hein, qui préparent donc un bac professionnel au métier du bâtiment et de la construction. Alors pour les trois premières formations, il a été possible d'observer l'ensemble des situations d'apprentissage Alors que ce soit les situations de cours qui sont ici dispensées dans un lycée professionnel, les situations de travail et les situations de formation délivrées par les formateurs de ces entreprises. Pour étudier les conditions de formation des élèves de lycée professionnel, a été privilégié des questionnaires. 400 élèves ont été interrogés par l'intermédiaire des questionnaires et des entretiens, ce qui est aussi vrai pour la première étude, hein, des entretiens menés auprès des élèves, mais aussi des enseignants de deux lycées professionnels. Alors, rappelons, pour ceux peut-être pour qui c'est un petit peu vague, qu'en France, la formation professionnelle initiale se compose de deux sous-ensembles. Le premier concerne les apprentis, qui sont sous contrat de travail, qui perçoivent un salaire et qui alternent des temps de formation en entreprise et des temps de formation en CFA, centre de formation d'apprentis, qui sont, dans le cas des formations que j'ai retenues, intégrées dans un lycée professionnel. Et le second sous-ensemble concerne des élèves qui sont cette fois-ci sous statut scolaire, qui sont formés principalement en lycée professionnel, mais qui, tout au long de leur formation, vont être amenés à effectuer des stages dans différentes entreprises. Alors, un public d'origine populaire, voire très populaire pour les lycées professionnels. Je préciserai également qu'une des spécificités des lycées professionnels est d'accueillir davantage de filles et de jeunes issus de l'immigration. Alors, j'en viendrai à la question des contenus de formation. Pour contextualiser, je dirais que la formation professionnelle va, au cours des années 80 et 90, connaître des transformations importantes. Création du bac professionnel en 85, rénovation de l'apprentissage en 87, qui sont finalement l'aboutissement d'un compromis entre différents acteurs. L'éducation nationale, d'une part, qui poursuit un objectif de valorisation de la formation professionnelle et d'élévation du niveau d'études, et les entreprises qui recherchent une main-d'œuvre et des contenus de formation plus adaptés à leurs nouveaux besoins. Alors, bien que l'objet d'un compromis, ces différentes transformations sont d'abord le souhait du MEDEF et tout particulièrement de l'UIMM. Alors, une volonté politique qui, sur fond d'une critique sociale de l'école et d'une forte valorisation de l'apprentissage, s'inscrit dans trois registres, celui de l'adéquation entre formation et emploi, celui de l'élévation des niveaux de formation et enfin celui des compétences et de l'entreprise formatrice. Alors, juste pour illustrer très très rapidement ces trois registres, je vous propose de regarder les campagnes qui ont été menées par le MEDEF, ici par l'UMM. Donc là, on voit bien un bac pro avec mention emploi. Donc là, on nous explique qu'en préparant un bac pro par apprentissage, non seulement on a un emploi, mais si vous regardez le petit texte qui est en dessous, on a en plus un emploi hautement qualifié. Deuxième campagne que vous connaissez peut-être, que je ne résiste pas à diffuser ici, « Arrêtons le gâchis, cet homme veut être jardinier, mais il n'obtient aucun entretien parce qu'il n'a qu'un diplôme de sociologie. Laissons leur chance aux compétences. Si vous reconnaissez, nous avons un étudiant devant Jussieu. » Donc là, on retrouve tous les registres, critique sociale de l'école, valorisation de l'apprentissage, adéquation, formation, emploi. Et enfin, la dernière qui vient de sortir, qui est dans le même registre que la précédente, quand la fac est finie, on cherche, quand l'apprentissage est fini, on trouve. Voilà, juste un petit peu pour illustrer, mais on aurait pu en trouver beaucoup d'autres. Alors, des politiques éducatives qui s'articulent aux transformations en œuvre dans la sphère productive, et il s'agit pour les deux grandes entreprises publiques retenues d'introduire de nouveaux modes d'organisation du travail et de gestion du personnel, de substituer à la notion de service public une gouvernance axée sur les compétences et la performance. C'est donc dans ce contexte que ces deux grandes entreprises publiques vont, dans un objectif de pré-recrutement de leurs salariés, former des apprentis à des activités qui constituent leur cœur de métier. Alors, un dispositif qui va permettre tout au long de la formation de trier et de sélectionner les apprentis, puisque la décision d'embauche ne s'effectue pas sur l'acquisition du diplôme, mais sur les fiches d'évaluation des comportements au travail. Hein, c'est sur ces fiches que va être décidé si on recrute ou pas l'apprenti en fin de formation. Précisons aussi que pour les trois premières formations étudiées, la formation délivrée en salle par les formateurs salariés de l'entreprise vise, à partir d'une démarche inductive, à corriger les pratiques professionnelles en situation de travail. Alors, notons cependant que ces injonctions à adopter un éthos professionnel, hein, qu'on va être amené à décrire, varient en fonction des métiers préparés et du sexe des apprentis. Deux injonctions, donc c'est les premières qu'on va observer, hein, deux injonctions, s'extraire de sa classe et performer son genre, structurent ainsi les deux premières formations. Alors, dans le cadre du BEP électrotechnique, menant à occuper un poste d'ouvrier d'intervention électricité, il s'agit de valoriser un savoir-faire technique et une attitude incarnée par celle du technicien. Il s'agit d'éloigner les apprentis nommés par l'entreprise agents de changement des pratiques des salariés. Des salariés décrits, je cite un procès-verbal de l'entreprise, de la direction générale, des salariés décrits comme porteurs de la notion de service public qui résistent aux notions de changement et de productivité et qui sont particulièrement bien informés de leurs droits. À ce titre, les contenus de formation dispensés en entreprise cultivent les capacités de communication. Les apprentis doivent adopter un langage policé, tout en étant capables de présenter en costume cravate et devant leur hiérarchie des exposés sur les interventions électriques, tout en manipulant un PowerPoint. En corrigeant les savoir-faire empiriques, la tenue vestimentaire, en s'attaquant à leur franc-parler et à l'argot de métier qui cimente les collectifs, l'entreprise cherche à les éloigner de la culture d'atelier. Alors, qu'en est-il du bac pro service qui mène à occuper un poste d'opératrice chargée de répondre en face à face ou au téléphone aux clients? L'examen des techniques de formation déployées par l'entreprise, telles que les jeux de rôle, montre qu'il s'agit de corriger des postures. Le corps, l'exis corporel, devient l'objet de toutes les attentions. Des injonctions qui sont fortement relayées par le lycée professionnel. En effet, nombreux sont les enseignants à considérer que leur mission première est de permettre aux élèves d'accéder à l'emploi. Dans ce cadre, l'acquisition de nouvelles dispositions s'avère d'autant plus nécessaire dans les métiers de service. Alors, à cette fin, les cours professionnels s'organisent autour de différentes techniques. Je cite les techniques en question. La première qui est nommée une revue de détail. Elles sont nommées, les apprentis, elles sont sommées de devoir s'habiller et de se maquiller comme le jour J en entreprise et de se prêter à la critique de l'enseignante et des autres apprentis. Elles sont également formées au bon goût pas cher. En les amenant par exemple au magasin Promode, vous devez connaître, chaîne de vêtements populaires pour les jeunes, pour leur apprendre à s'habiller pas cher, mais convenablement. Enfin, on leur demande d'acquérir les bonnes manières en organisant, je cite encore, des répétitions dans l'établissement où elles sont amenées à devoir servir le café, comme par exemple l'inspecteur vient rendre visite au directeur de l'établissement. Alors, parce que le corps, souligne Bourdieu, et la matérialisation la plus évidente des goûts de classe, l'objectif est de les défaire d'un style de féminité tel qu'il est perçu et représenté dans les périphéries urbaines pour adopter les manières d'être et de faire des femmes des classes intermédiaires occidentales. Alors si pour les uns, l'entrée en emploi implique de s'extraire de sa classe et de performer son genre, pour les autres, les apprentis facteurs trieurs et les élèves préparés au métier du bâtiment, excusez-moi, il s'agit d'adopter des dispositions du travailleur d'exécution, impliquant pour les filles de neutraliser leur féminité. Alors, si on examine le référentiel, hein, tri, acheminement, distribution, et les textes internes de l'entreprise, on s'aperçoit qu'il s'agit de cibler, je cite, une population modeste en situation d'échec, ayant acquis des dispositions minimales, lire, écrire et compter. Les apprentis doivent porter des vêtements propres et convenables, mais confortables et dépourvus de tout accessoire. Les filles doivent privilégier le pantalon à la jupe, les baskets ou chaussures à talons, non seulement parce que l'activité nécessite éventuellement de pratiquer le vélo, hein, quand on est facteur, par exemple, mais aussi parce que les filles sont priées d'expurger toute forme de coquetterie. Face aux pratiques machistes, il est rappelé aux filles que ce ne sont que de simples plaisanteries et que ce sont des situations, je cite, qu'il faut apprendre à gérer avec le sourire. L'examen des fiches d'évaluation des comportements au travail remplis par la hiérarchie permettent de repérer que le profil recherché est celui d'un exécutant. Donc là, je propose un repérage de ses qualités. Alors, respecter les règles, mobiliser sa force de travail, mobiliser sa subjectivité, c'est moi qui propose évidemment ces entrées, hein, mais ce sont les qualités qui vont être évaluées tout au long de la formation. Et on voit, hein, qu'il va s'agir de respecter les règles, retard, absence, probité, mais aussi de mobiliser sa subjectivité et de maîtriser ses affects, maîtrise de soi, prend la parole de façon adaptée, accepte la discussion, ou encore de mobiliser sa force de travail, exécute une tâche jusqu'au bout, rapidité d'exécution, ou c'est rester concentré. Donc on voit ici un ensemble de qualités qui renvoie à une organisation industrielle du travail axée sur la séparation entre conception et exécution, à une vision dans laquelle la hiérarchie est décisionnaire et capable de juger de la valeur des individus. Alors, le profil que je viens de décrire se rapproche de celui des élèves de lycée professionnel, quasi exclusivement des garçons, souvent issus de l'immigration et préparés au métier du bâtiment. Alors, les attentes comportementales des enseignants se révèle bien plus minimaliste que pour les filles. L'objectif est ici de tenir un poste d'ouvrier dont les exigences sont pensées comme limitées. Les injonctions à la disciplinarisation de soi prennent alors la forme de tentatives de civilisation. Ce constat doit être relié aux situations conflictuelles que rencontrent les enseignants auprès de certains élèves, décrits, je cite, comme immobiles ou indémontables. Dans la pratique, ces tentatives se traduisent par l'acquisition de savoir-vivre de base, dire bonjour, enlever sa capuche ou sa casquette, entretenir et ranger ses outils, bien se tenir face à un patron et surtout ne pas voler, et ça renvoie aux situations de stage, il s'agit ici de ne pas voler les clients. Un tel constat n'est pas sans rappeler les analyses d'Hugo Paletta sur le racisme endémique dont sont l'objet les élèves issus de l'immigration maghrébine et subsaharienne, et les analyses de Stéphanie Galioz autour de la perception dite archaïque de la main-d'œuvre masculine au sein des métiers du bâtiment. On y retrouve aussi un discours autour de les traditions de rivalité entre quartiers ou entre bandes, de la consommation de psychotropes comme source de tous les vices, je cite toujours, ou encore de l'usage d'un vocabulaire vulgaire, grossier ou sexiste. Des injonctions qui ne déterminent cependant pas le procès de socialisation des apprentis et des élèves. Donc je poursuivrai sur les façons dont les jeunesses populaires se confrontent aux situations et produisent des rapports au monde marqués par des formes d'autonomie sociale et culturelle, et j'insisterai surtout sur la question des collectifs de travail. Alors, tout au long de la formation, les garçons formés au BEP électrotechnique sont conduits à jouer le jeu, à faire les bons petits toutous. Je reprends, évidemment, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. À répondre tant aux demandes des collectifs qu'aux demandes de la hiérarchie. Reste que progressivement, les apprentis se réalisent à travers les collectifs ouvriers. C'est que bien souvent, pour la première fois, ils ont le sentiment d'être utiles et reconnus socialement. Les activités d'exploitation et d'entretien des réseaux électriques sont fortement valorisées. Elles constituent non seulement des espaces de socialisation, mais elles offrent aussi un travail qualifié et non répétitif. Ce que les apprentis valorisent, c'est la performance physique, hein, et surtout les interventions aériennes ou souterraines. Le sentiment de danger qui permettent d'affirmer leur virilité. Les collectifs de travail, eux, développent des savoir-faire permettant tour à tour de transmettre ces savoir-faire, mais aussi d'intégrer les apprentis. Par exemple, les apprentis vont être invités à démontrer par le biais de bizutage qu'on peut compter sur eux, qu'ils sont capables de s'affronter au danger en leur payant par exemple un saut en parachute le week-end ou en leur offrant des espaces de socialisation, pot au café, partie de belote, course de moto. Alors sur les plateaux clientèle, c'est tout autre chose. Le travail est automatisé, monotone et soumis à une importante surveillance hiérarchique. Tout en manifestant un désintérêt envers l'activité que les filles comparent à l'usine ou au travail à la chaîne, elles précisent que renoncer à cet emploi serait de la folie. Il ne s'agit plus ici de pratiquer le bon petit toutou, que de moduler ses conduites en s'adaptant et en jonglant. L'importance des transformations opérées sur deux scènes, que sont l'école et le travail, révèle les capacités à mobiliser différents répertoires culturels. Alors qu'en entreprise, elles adaptent leur vocabulaire, s'attachent les cheveux, bannissent le vernis et privilégient les jupes à coupe droite. Au lycée professionnel, elles échangent en verlan, portent un piercing et des buffalo. Nombreuses sont en jean et ont troqué leur sac à main contre des sacs à dos en jean treillis. À l'inverse des électriciens, qui valorisent l'univers productif et les collectifs de travail, elles valorisent l'école et ses modes de socialisation juvéniles et populaires sur lesquels vont se constituer des collectifs. Des collectifs éphémères qui leur permettent de se confronter aux injonctions. Et ces collectifs éphémères vont leur permettre également d'ironiser sur les pratiques professionnelles. Par exemple, j'ai pu les observer entre elles défiler avec leurs chemisiers, leurs jupes à pinces et leurs chaussures à talons pour déterminer, je cite, « laquelle fait la mieux la greluche ». Cette autodérision permet d'exprimer une distance avec l'image stéréotypée de la femme, mais pas de n'importe laquelle, de celle qui se la joue, qui se la pète ou qui se croit au-dessus. Alors cette prise de distance permet d'avancer avec Skeg que si les femmes des classes populaires ne s'assimilent pas aux classes supérieures, c'est aussi qu'elles ne le veulent pas. Elles ont conscience que pour décrocher un emploi, il s'agit de dissocier ce qui est de l'être, être une petite employée, une ouvrière, et ce qui est du registre du paraître, pour reprendre leur terme, une bourge. Alors ce sont ces collectifs éphémères qui caractérisent également la socialisation professionnelle des facteurs trieurs. Au début, et de la même manière que les électriciens, les pratiques révèlent d'un véritable zèle au travail. Les situations d'apprentissage corroborent la thèse développée par Michael Burroway. Si les apprentis finalement acceptent de se plier aux contraintes de la production, ce n'est pas que par coercition. Le défi de production y permet simultanément de passer le temps, de s'insérer dans des collectifs et de se sentir utile socialement. C'est finalement la découverte qu'ils seront amenés à devenir rouleurs. Alors rouleurs, c'est remplacer les facteurs titulaires sur leur tournée, ou à devenir trieurs, qui va brutalement les faire basculer d'une phase d'enchantement à une phase de désillusion puis d'opposition. C'est ainsi qu'aux ailes au travail va se substituer des pratiques collectives de freinage, de dérobade et de résistance. Trier à deux sur un casier, ce qui est strictement interdit, falsifier le carnet pour ne pas être affecté au dépiautage, repérer les changements d'équipe pour partir avant l'heure, ou encore décider collectivement de se syndiquer. C'est à travers cette limitation de la production que Donald Royd inscrit dans le fonctionnement ordinaire de toute entreprise que se constituent ici et se renforcent les collectifs apprentis. Alors, la constitution de collectifs s'avère particulièrement difficile pour les élèves, non seulement parce qu'au lycée professionnel et contrairement aux filles, ils se décrivent comme solitaires, mais aussi parce que les expériences de stage effectuées dans diverses entreprises ne permettent pas d'intégrer un collectif. Les entretiens comme les questionnaires ont permis de repérer trois types de socialisation, toutes marquées par l'expérience de subordination. Alors pour un premier groupe d'élèves, ce rapport de subordination est accepté parce qu'il est contrebalancé par le plaisir au travail, le travail bien fait et une bonne ambiance. S'ils adhèrent à une position, celle de l'ouvrier, c'est cependant provisoire. Nombreux souhaitent poursuivre leurs études, progresser en devenant par exemple conducteur de travaux ou monter leur propre entreprise. Ce premier groupe comprend des fils d'artisans, des élèves qui viennent d'arriver en France, tout particulièrement de Mayotte ici, ainsi que des Kurdes déjà insérés dans un réseau professionnel et communautaire. Un second groupe souligne les conditions de travail difficiles et insiste sur l'usure physique qui structure l'ensemble de leur discours. Ils insistent sur le travail dans le froid, les postures, les charges lourdes, la manipulation de produits toxiques. Le rapport développé au travail est très proche de celui des élèves de bac pro à Peugeot, décrit par Beau et Pialou. Pour ces fils d'ouvriers, souvent issus de l'immigration maghrébine, c'est aussi le refus de reproduire la condition du père. Ce groupe comprend des élèves qui décrivent des situations où ils sont discriminés, exploités et disqualifiés, et dont les projets professionnels sont sous-tendus par la volonté de s'échapper de la condition ouvrière en poursuivant, par exemple, vers la gestion ou le commerce. Enfin, un dernier groupe, plus minoritaire, décrit, lui, une orientation contrariée. Alors qu'ils avaient des passions, des projets, ils ont dû y renoncer. Plus dotés socialement que les autres élèves, ils vivent très difficilement la confrontation à des situations de travail relevant d'univers qu'ils décrivent comme inconnus, sales et bruyants. Ils vivent cette situation comme un véritable déclassement et mettent en mots leur refus d'être comme eux, comme les ouvriers. Ils cherchent à se distinguer des autres en adoptant des projets alternatifs, dessinateurs, cascadeurs, chanteurs, etc. Alors, la période contemporaine, et ça sera ma conclusion, marque un recul face à un enseignement qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, proposait une formation méthodique et complète, chargée de former l'homme, avec un grand H, le travailleur et le citoyen. Un projet culturel qui lui confierait une identité propre. Un enseignement unissant l'apprentissage d'un métier et une culture de métier qui permettait d'exercer un contrôle sur les conditions d'exercice du travail. La disparition des anciens ouvriers enseignants, décrit par Lucie Tanguy, entérine une conception de la socialisation professionnelle centrée sur la figure du métier. L'image de l'ouvrier tend dès lors à rester à la porte de l'école et, quand il y pénètre, à être véhiculé en négatif. Loin de valoriser l'enseignement professionnel, les politiques de ces dernières décennies ont contribué à dévaloriser la qualification ouvrière et féminine en la réduisant à un bas niveau de qualification, à des dispositions sociales et culturelles perçues comme la principale clé d'accès à l'emploi. Délaissant les ambitions culturelles et citoyennes initiées dans les années 50, les politiques contemporaines contribuent, pour reprendre l'expression de Gilles Moreau, à la défaite d'un projet émancipateur. La crainte de Hogarth, telle qu'il le décrivait à la fin des années 50, est ainsi réalisée. En se concentrant exclusivement sur des objectifs politiques ou économiques à court terme, nous dit-il, nous essuierons un échec parce que nous aurons laissé le terrain de la culture à l'adversaire. Alors, l'examen des pratiques apprenties nuance cependant un peu ce bilan. Tout d'abord, il apparaît primordial de prendre en compte l'hétérogénéité des procès de socialisation. Nous l'avons vu, placé dans des situations de travail où il y a référence à un métier et à un collectif, les apprentis reprennent nombre de pratiques propres à ce qu'on appelait traditionnellement la classe ouvrière. De même, qu'en s'appuyant sur des collectifs éphémères, ils et elles produisent des pratiques de résistance, originales ou traditionnelles, fortement genrées, qui permet de contourner, voire d'infléchir les contraintes par le biais de pratiques de dérobade, de faire semblant ou d'opposition. La confrontation, les situations d'apprentissage s'avèrent donc une épreuve des réalités qui confrontent aux rapports sociaux. L'entrée au travail et le plaisir ou le désenchantement qui en résulte peuvent s'effectuer sur d'autres modes que celui de la désaffection à l'égard du travail ouvrier, de la soumission, de l'individualisme ou de la fascination pour les classes intermédiaires. Les jeunesses populaires produisent donc des rapports au monde marqués aussi par des formes d'autonomie sociale et culturelle. Merci.
Si vous posez des questions, on enchaîne directement. Oui, on va, s'il y a des gens qui ont des questions à poser à Prisca Kergoat, je pense qu'elle répondra peut-être plus tard, mais bon, tant que vous les avez en tête, ce pourrait être le moment. Oui.
Oui, alors c'est vrai que pour les garçons en BEP électrotechnique, hein, je l'ai dit, il y a une valorisation très forte de l'univers productif, avec une associée à une critique hein, quand même des savoirs transmis hein, au sein des lycées professionnels. Après, je ne pense pas qu'on puisse parler de culture anti-école. Hein. Je pense que tous et toutes ont aujourd'hui complètement assimilé et intégré le fait que le bac devient aujourd'hui indispensable et qu'il est nécessaire. Hein. Voilà, c'est vrai que chez Willis, on avait aussi des jeunes qui n'étaient pas qualifiés. Hein. Ce n'étaient pas des jeunes apprentis ou des jeunes de lycée professionnel. Et là, il y a vraiment hein, la norme du baccalauréat. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très, très fort et totalement intégré. Donc, même s'il y a une critique de l'école, il y a vraiment la volonté d'obtenir le diplôme et de s'insérer hein, au sein du lycée professionnel ou du CFA.
Alors, moi, il y a quelque chose qui m'ennuie un peu, déjà, dans ce que vous avez dit. Parce que vous avez effectivement fait une bonne présentation fondée effectivement sur la différence des sexes et différents facteurs de ce genre, mais vous avez complètement évacué. Je crois d'ailleurs que c'est une tendance générale. C'est un petit peu dommage parce que c'est quand même quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Vous avez complètement évacué le problème du handicap. C'est-à-dire que les personnes qui sont des apprentis et qui ont des problèmes physiques ne sont pas évoquées. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que il y a un problème d'intégration de ces personnes qui devient de plus en plus récurrent et de plus en plus important.
Oui, alors effectivement, j'ai dû faire très vite hein, dans la communication parce que la volonté de présenter quatre formations différentes, les contenus et les procès de socialisation fait qu'évidemment je survole et j'ai pas par exemple du tout travaillé la question du recrutement des apprentis, hein, c'est-à-dire de la manière dont ils sont sélectionnés et triés. sur leur disposition, hein, donc sur aussi leur origine sociale, sur leur sexe. J'ai pas aussi beaucoup abordé la question des races, hein, qui pourtant est déterminante, mais j'avais pas le temps, comme la question du handicap. Et c'est vrai que sur ces formations, la seule possibilité, telle que j'ai pu l'observer, pour les élèves handicapés d'intégrer la formation professionnelle, c'est de passer par le lycée professionnel. Hein. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile pour eux d'intégrer les formations par apprentissage. Mais je dirais un peu de la même manière que les jeunes hommes maghrébins et subsahariens, hein, il y a besoin de contourner, hein, par les lycées professionnels pour pouvoir accéder à une formation.
Bien, donc on reprend avec David Gaborio, puisqu'on aura plus de temps lors de la discussion avec Marie Cartier.